Que son nom soit béni. Nous poursuivons dans notre sujet qui permettra à ceux qui aiment Dieu de mûrir spirituellement. Nous allons faire une lecture dans le prophète Daniel au chapitre 12 au verset 10. Et nous allons voir quelques exemples d'épreuves dans ce livre. Daniel, chapitre 12, verset 10. Je répète ce que j'ai dit plusieurs fois, n'hésitez pas à noter sur un papier, même si vous vous procurerez le MP3, n'oubliez pas de noter des textes qui vous aideront. L'idéal, ce serait que vous preniez même une concordance pour prendre après les mots clés de ces textes, de ces versets, et pour en faire toute une étude. Ça prend la méditation. Parce qu'il y a des choses que vous apprendrez par des pasteurs, comme c'est le cas aujourd'hui, mais il y a certaines choses que vous n'apprendrez qu'avec Dieu. Ne dites pas un jour, oui, mon pasteur aurait dû me l'apprendre, c'est pas normal que je ne l'ai pas appris. Il y a des choses, vous les apprendrez par des bons livres, vous les apprendrez par des expériences, mais il y a des choses que vous apprendrez par révélation personnelle. On ne peut pas tout recevoir des autres. Il faut recevoir également du Seigneur Jésus. C'est important de comprendre ces choses. Et la méditation personnelle y contribue énormément. Daniel chapitre 12, verset 10. « Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Ce verset mérite beaucoup d'attention. Il fait la différence entre les méchants et les intelligents, c'est-à-dire les méchants et les justes. Les méchants dans la Bible, ce ne sont pas les païens. Les païens, ce sont des pécheurs ou des impies. Ils n'ont pas de piété ou ils sont païens parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dans la Bible, les méchants, ce sont ceux qui sont chrétiens mais qui n'ont aucune communion avec le Seigneur. C'est un autre sujet, mais il faut bien comprendre qu'il y a une catégorie de croyants qui n'est pas du tout intéressée par la communion avec Dieu. Et puis, il y a ceux qui sont intéressés par la communion avec Dieu. Cela doit caractériser plusieurs parmi vous puisque vous êtes venus à ce séminaire. Et ceux qui ont de l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de s'adapter quand même, voyez, vous êtes peut-être pas au point sur l'adversité, l'épreuve et l'intelligence, je crois qu'une des définitions du DICO, c'est la capacité de s'adapter à des nouvelles situations. L'intelligence, c'est ça, c'est-à-dire que je sais pas tout, j'ai bien des choses à apprendre, mais je vais les apprendre, je suis capable de me corriger. Voilà. Et plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. On va aller au début du livre de Daniel. Vous connaissez l'affaire sûrement, vous connaissez l'histoire de Daniel et de ses trois amis qui ont été exilés, déportés sur une terre étrangère. Ils étaient jeunes. Vous avez lu le livre de Daniel? Vous connaissez à peu près le livre de Daniel, c'est pas la peine que je le résume. Donc ils sont coupés. Ils sont coupés de leur famille, ils sont coupés de leurs amis, ils sont coupés de leur culture, ils sont coupés de tout. Et ils se retrouvent donc déportés et ils sont jeunes et ils sont donc confrontés à certains besoins. En plus, besoin qui existe quand tout va bien. Bon, si on prend le temps, on comprend mieux l'adversité dans la Bible quand on saisit les situations vraiment dans lesquelles les gens se trouvaient. Il y a des besoins dans la vie, il y a des besoins. Il y a des besoins physiques, on a besoin de manger, on a besoin de boire, il y a des besoins d'ordre sexuel une fois qu'on est marié, et etc. ainsi de suite. Il y a tout un tas de besoins. Des fois, on n'ose pas en parler parce qu'on n'a pas l'habitude, mais il faut quand même en parler pour comprendre le phénomène de l'adversité. Il y a des besoins intellectuels. Les gars qui ont affaire ce matin, ce sont des intellectuels. Ce sont des gars qui se sont appliqués, qui ont étudié. Dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui sont très terre à terre, etc. Mais il y a des intellectuels. Il y a des gens qui vont être utilisés par Dieu pour faire certaines choses. On le voit bien dans le livre de Daniel. Donc, il y a besoin de sagesse pour quelqu'un qui a un certain intellect. Il y a les besoins spirituels. Ce sont des juifs. Ils ont eu une culture. Ils ont appris dans le temple de l'Éternel les choses du Dieu d'Israël. Et là, ils se retrouvent projetés dans un contexte païen. Et tous ces besoins, lorsqu'ils ne sont pas pourvus, vont susciter des tentations, comme Jésus, quand il a été confronté au désert, il y a tentation, c'est présenté, etc. La tentation de quoi faire. Eh bien, quand on est confronté à tout un tas de besoins, il y a tout un tas de tentations qui se présentent. J'en ai parlé l'autre jour. La tentation de tout abandonner. Parce que je suis tout d'un coup dans... On le voit, ne parlons pas des amis de Daniel déportés à Babylone. Je pensais ce matin, en préparant cette prédication, je pensais aux animateurs qui viennent dans une colo travailler et qui tout d'un coup se trouvent confrontés à autre chose qu'ils ont dans leur église, dans leur famille. Et dès qu'on est confronté à des gens, il y a incontournablement des conflits. Qui a fait des colos ? Hein, c'est obligé, hein, on est confronté à des situations et on peut fuir. J'en ai marre, je fous le camp. Ça, c'est une façon de réagir dans l'adversité. C'est pas la façon qui va vous faire mûrir, croyez-le. La tentation de dire, mais moi je suis pas connu là où je suis, je peux faire n'importe quoi, ça ne portera pas beaucoup de fruits. Vous savez, nous sommes dans un monde qui nous offre de plus en plus la possibilité de pécher. Quand je vois Internet, c'est gratuit. Même si c'est 30 euros, c'est gratuit. Vous avez vu tout ce que le monde présente pour que l'homme puisse pécher. Ce n'est pas pour rien que Jésus a prophétisé, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tout cela, ce surcroît d'iniquité, favorise la tentation. Et nous voyons dans le livre de Daniel comment cet homme et ses trois amis ont su vaincre la tentation. Premièrement, on ne peut pas tout expliquer. Vous avez vu qu'ils ils ont eu du courage. Et il fallait qu'ils mangent la nourriture que le roi leur proposait. C'était la viande qui était sacrifiée aux idoles. Si ma connaissance est exacte, souvent les repas dans ces conditions se faisaient avec des orgies. Alors je comprends qu'ils aient voulu ne pas manger dans ces conditions. Au verset 8 du chapitre 1er, on a même changé leur nom. Vous avez vu comment l'ennemi il a essayé de changer la personnalité de ces jeunes. Ce matin, quand on prenait le petit déjeuner, on me posait des questions par rapport à l'histoire de Job. Et on me posait des questions sur la méthode du diable. La méthode du diable, c'est toujours la même. C'est de détruire. Détruire la foi d'un homme. Quand le diable a réussi à détruire la foi, il a pour ainsi dire gagné. Et là, il a voulu même changer leur personnalité. Si vous regardez le verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar. Ce sont des dieux étrangers, etc., etc. Pourquoi ? Pour essayer de détruire leur personnalité. Vous savez, le caractère, c'est une chose. Il y a du ménage à faire. Mais la personnalité, Dieu vous l'a donnée. Si vous aimiez le bleu avant votre conversion, je pense que vous aimerez le bleu après. La personnalité, Dieu l'améliore, mais il ne nous détruit pas la personnalité. C'est impossible dans la mentalité de Dieu qu'il détruise notre personnalité. Au contraire, il l'améliorera. Pour faire la différence entre la personnalité et le caractère. Mais le diable, là aussi, il essaie de détruire notre personnalité. David, ses amis, ont commencé à vaincre la première tentation par la résolution. Si vous voulez remporter certaines victoires, il faut être résolu. Je redis ce que j'ai dit l'autre jour, c'est bien d'avoir une vision, mais si vous ne savez pas vous décider, si vous ne savez pas prendre des résolutions, ça ne servira strictement à rien. D'ailleurs, dans le livre de Job, vous savez, c'est un des trois amis, dans un contexte particulier, va dire une chose importante. À l'époque, elle n'était pas adaptée, mais elle est biblique. À tes résolutions répondra le succès. Vous le méditerez dans Job chapitre 22, versets 21 à 29. Il y a toute une exhortation qui explique comment avoir le succès. Il y en a qui aimeraient avoir du succès ? Oui, mais c'est bien. Succès pour le Seigneur, c'est une bonne chose. Le succès spirituel, c'est bien. Donc l'accent est mis dans la première épreuve qu'il traverse sur la résolution. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il a pris la résolution, le courage devant un choix. Vous avez plein de choix. Joseph a été tenté. Il a été tenté à cause de la femme de Potiphar. Il était très 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 loin de chez lui. Il était tout seul. Il a été déterminé. La pureté, c'est un choix. Nous attendons, aide-moi. Mais oui, Dieu va nous aider. Mais il nous aide quand on fait certains choix. C'est comme si quelqu'un disait « aide-moi à me convertir ». Mais non, convertis-toi. Il est pas. Est-ce que vous comprenez ? Il faut se convertir. Et il y a des choix, c'est pas compliqué. Je prends ce matin la décision de ne plus me souiller avec les choses que le roi du monde me propose. Donc ces amis ont vaincu leur première épreuve avec cette résolution. Il faut du courage dans la vie. Le courage, je ne sais pas si on en a, mais il faut le prendre. Vous aurez des tribulations dans le monde, a dit Jésus, mais prenez courage, on prend, on a pris le pain et le vin, on fait un acte, on utilise notre main, notre bras, pour saisir le peu de pain qu'on nous a proposé. Quand Jésus dit prenez et mangez, ce n'est pas le problème du pain en soi, c'est le problème de prendre la bénédiction spirituelle qui se présente lorsque le pain est distribué. Prenez et buvez, vous comprenez bien que c'est pas parce que je bois du vin que je suis en communion avec Dieu. Mais parce que pendant la Sainte Cène, je prends la décision de réhabiliter ma communion avec Dieu, parce que ce vin ne peut que m'interpeller. Les deux chants que nous avons entendus, si merveilleux, nous interpellent également. Vous voyez, un chant peut nous interpeller énormément. Non ? Le chant qu'on a entendu, ça vous donne pas envie de vous jeter dans les bras du Seigneur ? Voilà, le vin devrait avoir le même effet. Ce vin, mais tout ce sang versé sur le chemin du calvaire, à Gethsémané, les grumeaux de sang, enfin, toutes les fois où il est parlé du sang, le vin, c'est ça, je bois la bénédiction, je me nourris, je me suis rafraîchi de cette bénédiction. C'est ça, prendre. C'est un acte vraiment de foi. C'est pour ça qu'il y a des verbes qui indiquent un effort à faire. Si je vous mets sur les genoux une enveloppe pleine de billets de 50 euros, vous n'allez pas la laisser par terre. Vous allez, que c'est bizarre, vous allez la prendre. Non ? On fait un essai ? Faites-le avec moi. Quel choix, quel résultat ? Alors je vous ai dit que l'épreuve a des résultats. Parce que je crois que Dieu n'est pas insensible. Attention, le Seigneur il sait les efforts que l'on fait pour être chrétien. Parce qu'il y a des efforts quand on est chrétien à faire, c'est pas vrai ? C'est pas facile toujours. Quand vous êtes seul dans la boîte où vous travaillez, à entendre les ricanements des croyants, des incroyants. Quel a été le résultat de cette affaire ? Verset 17. Il faut parler de l'épreuve, c'est clair. Mais on a lu, rappelez-vous, en introduction, l'épreuve de votre foi est pour résultat. Résultat, verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Vous avez vu comment Dieu les a honorés ? Des fois, on dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence. Si mon comportement est orienté vers la désobéissance, ça m'étonnerait que ça se passe. Mais quand on prend des résolutions, dans l'épreuve, Dieu peut nous accorder de la sagesse. Il n'y a pas que ça. Verset 19, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc mis au service du roi. Deuxième résultat. Troisième résultat, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Vous voyez des gens qui sont, dès qu'ils sont dans l'épreuve, oh, de toute façon, c'est pas grave, moi je. Oui, ça commence peut-être avec la louange. Non, oh, moi je loue pas, j'ai pas envie de louer aujourd'hui. Vous voyez, je ne pense pas que ça devrait être le caractère de Daniel. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible « Louez le Seigneur, tu adoreras le Seigneur si tu as envie ?» Les gens résolus, ce sont des gens qui sont sérieux. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je suis béni, je loue Dieu. Je suis dans l'épreuve, je loue Dieu. » En tout temps, ça ne veut pas dire quand il pleut et quand il fait gris. En tout temps, ça veut dire, quelles que soient les épreuves ou les bénédictions que je rencontre, j'ai décidé, je me suis résolu à adorer le Seigneur. Ils étaient déportés, ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que c'est ce travail ? Je pouvais faire tout un laïus de ce qu'ils auraient pu dire à cause du péché de leur père, ou de la nation d'Israël qui avait bien sûr favorisé tout ça à cause de leur désobéissance. Eux, ils étaient dans une nation qui avait abandonné Dieu, ils étaient loin de chez eux, ils étaient en possibilité de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont dit non, on choisit d'être saints. Il y en a qui le chantent, il y en a qui le font. L'épreuve les a enrichis intellectuellement. C'est bien ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est important que nous demandions au Seigneur de l'intelligence ? Est-ce que David un jour a dit Seigneur, accorde-moi de l'intelligence, accorde-moi du bon sens? Oui, on peut demander. C'est pas interdit d'être intelligent. On peut être spirituel et en même temps avoir de l'intelligence. Mais si on réagit mal, l'épreuve ne nous enrichira pas. L'épreuve nous engloutira. Daniel chapitre 2, vous connaissez ce livre. Le roi, il fait un songe. Ce roi est un petit peu particulier. Ce roi, il a fait un songe, il a oublié le songe et il a demandé qu'on lui interprète le songe sans qu'il ne révèle le songe. Bon, c'était... Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il réunit les sages, les astrologues, les magiciens. Voilà, interprétez-moi le songe. Dis-nous le songe que tu as fait. Ah, vous cherchez à gagner du temps. Interprétez le songe. Mais dis-nous le songe au moins, qu'on puisse avoir une base sur laquelle comprendre. Non. Vous avez vu ce qui se passe? En plus, ils le disent, je crois, au verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Oui, ça c'est clair. C'était difficile à l'avoir, même impossible. La tentation du désespoir. Parce qu'ils étaient voués à la mort. Le roi, dans sa mégalomanie, il va dire, voilà, puisque si personne m'interprète, je vais faire tuer tous les sages. Ça, je pense qu'il y avait quelqu'un derrière qui voulait détruire le prophète Daniel, parce que Daniel, on va voir les épreuves qu'il a rencontrées, mais Daniel a prophétisé sur les temps d'aujourd'hui. Le prophète Daniel, c'est quelqu'un, quand on voit tout ce qu'il enseigne par rapport à l'Apocalypse. Et je crois que le diable voulait détruire Daniel. Et là, il se trouve confronté à une autre tentation, à une autre preuve qui pourrait provoquer la tentation du désespoir. Un chrétien peut-il connaître le désespoir ? Ou un chrétien est-il toujours heureux? Vous savez, on peut se réjouir du salut. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et en même temps, traverser des épreuves. Ce n'est pas incompatible. Vous l'avez certainement vécu plusieurs. Des fois, on traverse des épreuves. Moi, je me souviens, j'avais entendu, juste avant de demander à Dieu qu'il me brise, j'avais pris des cassettes de Yon Guichon. Et il y en avait une où il expliquait que Dieu ne peut utiliser un homme que s'il est brisé. Après, il le restructure, vous voyez. Et il disait, voilà, un homme utile, c'est un homme qui connaîtra d'abord le désespoir. Bon, moi, j'étais là, je discutais avec lui. Il était à la télé, moi, je discutais avec lui. J'ai dit, Yongui, là, tu exagères, Yongui. C'est pas possible, un chrétien ne peut pas être désespéré. Découragé, j'en conviens. Désespéré, eh bien, écoutez, j'ai changé d'avis. Je crois qu'un chrétien peut rencontrer la tentation du désespoir. Ça peut arriver. Être tenté, on l'a vu hier, puisque dans le carrefour, quelqu'un a posé la question par rapport à la tentation. Est-ce que la tentation est un péché? Non. La tentation n'est pas un péché. Les tentations, elles peuvent se présenter sous plusieurs formes. Tiens, parlons de la tentation du suicide. Est-ce qu'un chrétien... Attention, hein, je parle de tentation. Est-ce qu'un chrétien peut être tenté par le suicide? Est-ce que la tentation de mettre fin à ses jours peut assaillir le cœur d'un enfant de Dieu? C'est une question. C'est sérieux, cette affaire. Moi, je vous avoue que pendant le moment où la vague était le plus haute, je me suis posé quelques questions. Ça s'est resté au stade de la tentation, parce que je crois que de la tentation à la réalisation, à la concrétisation, on l'a vu hier, il y a 4 ou 5 étapes, et je crois que quand on arrive à la dernière étape, on s'est profondément mis en danger. Et que je pense quand même, vu les 3 cas de suicide dans la Bible, que l'issue doit être terrible, incontournablement. Ça, c'est un autre sujet, juste pour vous aider à comprendre que nous pouvons rencontrer toute forme de tentation et accepter que quelqu'un puisse souffrir. Quelqu'un qui souffre au niveau de la maladie, il a droit à la guérison, et s'il n'est pas guéri, il a droit à la compassion de ses frères et sœurs. Un chrétien qui souffre, est-il spirituel? Vous savez, moi j'en ai entendu des choses sur les chrétiens qui souffraient. S'il souffre, il y a peut-être quelque chose au niveau de sa spiritualité. Vous savez, il y a des gens, ils sont contre tout. Ils sont contre les médicaments, ils sont contre les hôpitaux, contre les médecins, contre les soins. Enfin, tant qu'ils ne sont pas malades, en vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ça, c'est révélateur. C'est révélateur. Daniel, comment il a réagi dans cette épreuve qui a provoqué quand même le désespoir? Si on vous disait demain, on va te tuer parce que tu n'as pas expliqué le songe de Monsieur Serré, et il avait. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Qu'est-ce que vous feriez? On dit, bon, on va te tuer. Donne-moi l'explication de ce rêve. Mais dis-moi le rêve. Non, je n'ai pas le rêve, tu devrais savoir aussi le rêve. Le désespoir. Comment Daniel a-t-il réagi? On le lit? Verset 17 du chapitre 2. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, comment il réagit? Deux refuges, la communion fraternelle et la communion avec Dieu. Quand on est dans de grandes épreuves, quand on est confronté peut-être même au désespoir, il ne faut pas en parler à n'importe qui. À n'importe qui, pas dans le sens où les gens sont n'importe qui. Il y a des gens qui sont bien et des gens qui sont n'importe qui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre l'épreuve. Oui ou non? Il y a des gens qui ne sont pas capables. Est-ce que vous avez des amis? Comme je l'ai dit, on ne peut pas en avoir beaucoup, des vrais amis. Mais c'est bien d'en avoir. Des gens qui seront prêts à vous écouter, même s'ils ne peuvent pas forcément vous aider, mais au moins qui vous comprendront et qui vous ne jetteront pas la pierre. Des gens capables d'entendre certaines choses. C'est bien d'avoir des amis, non? Est-ce que c'est important pour vous les amis? Ou est-ce que vous arrivez, est-ce que vous êtes arrivé à ce degré de spiritualité où vous êtes en train de dire, moi, je n'ai pas besoin d'amis, moi. Mon ami, c'est Jésus, ça me suffit. Priez avec les autres, non merci, j'ai assez donné. Moi, je prie chez moi, chacun pour soi. Voilà, moi j'ai appris, je suis blindé comme un roc, comme Jésus, j'ai souffert. Moi, la prière chacun pour soi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Est-ce que c'est écrit prier chacun pour soi? Non. Mais il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Ils se sont endurcis, ils ont mal réagi devant une épreuve. Ils auraient dû dire, aidez-moi les frères, priez avec moi. Il n'y a pas de honte de dire, priez avec moi. N'ayez pas honte de dire « priez pour moi ». Souvent, je le demande à l'église. Je dis « priez pour moi ». Alors, il y a des gens de passage, ils disent « mais monsieur Gros, vous demandez aux gens de prier pour vous ? Pourquoi ?» Mais j'ai dit « parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin comme l'apôtre Paul l'a dit « priez pour moi ». Je pense que si l'apôtre Paul, quand même, qui était une sacrée pointure, a pu dire « priez pour moi », je ne vois pas quel autre homme sur la terre pourrait s'empêcher de demander à quelqu'un ou s'autoriser à ne pas demander la prière. La réaction devant certaines adversités, c'est d'avoir des amis. N'hésitez pas à téléphoner à deux ou trois personnes. Prie pour moi, je traverse un moment difficile. Voilà, c'est quoi? Écoute, je t'en parlerai une autre fois. Prie pour moi. Vous ne croyez pas que Dieu peut agir? La communion fraternelle, c'est pour ça qu'on a besoin d'une église. Les gens qui s'isolent après les épreuves, ils sont en danger. Ce n'est pas le sujet, mais enfin, ça arrive. Oui, on a parlé hier de ce texte. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Mais après, ça va plus loin. S'il n'y a pas eu de réponse, s'il n'y a pas eu d'intervention, s'il n'y a pas eu de révélation, qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut régler tout seul. C'est un petit peu, moi je compare ça comme un poids. On peut soulever une baffe, elle fait 30 kilos, on peut la soulever tout seul. S'il faut déplacer l'estrade, il faudra mieux s'y mettre à 3 ou 4. C'est pareil pour les problèmes. Il y a des problèmes, on peut les porter tout seul. Il y a des problèmes, on ne peut pas. On va se faire du mal. Et Dieu permet qu'il y ait des problèmes qui font qu'on sollicite les autres pour s'en sortir. Oui, il faut savoir appeler les autres. N'ayez pas de honte, n'appelez pas les gens pour n'importe quoi. Si vous saviez ce que j'entends. Dépendre les uns des autres, c'est une grande bénédiction. D'ailleurs, ça fait partie de la vie de l'esprit. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les gens qui s'isolent, la Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Le résultat, quel a-t-il été? Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Regardez la réaction de Daniel. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. » Regardez bien la suite. « À lui appartiennent la sagesse et la force. » Regardez ceux qui ont besoin d'une direction dans leur vie. « C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Vous pouvez dire Amen. Je le relis. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Vous avez vu le résultat ? Quelle grâce ! Dieu a révélé son secret. J'y ai fait allusion hier dans une prédication. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les secrets, c'est peut-être pas la compréhension de tout, mais c'est l'explication de certaines choses. L'explication de certaines choses qui sont spirituelles. Voyez, le résultat, Dieu s'est révélé. On a prié avec des amis, parce que c'était quand même une affaire sérieuse, et le résultat extraordinaire. Encore plus de sagesse, encore plus d'intelligence, encore plus de révélation de la grandeur de Dieu. Vous savez, c'est une chose de chanter en son temps. Mais quand vous savez vraiment que c'est vrai, que Dieu change les temps et les circonstances, vous ne le chantez plus pareil, le cantique. Vous entendez ? Les jeunes, vous qui peut-être ne comprenez pas certaines choses, si vous vous entourez, si vous souffrez, je ne sais pas, vous pouvez souffrir de la... Quelqu'un a parlé hier de l'épreuve de la solitude, quelqu'un m'a parlé de l'épreuve du célibat. C'est des bénédictions pour certains, pour d'autres, c'est des épreuves. Ne dites pas à quelqu'un, mais la solitude, moi je suis seul, je le vis très bien. Tu devrais faire comme moi. Voyez, cette profondeur de la sagesse. Voyez. Mais voyez, comment voulez-vous que Dieu utilise des gens comme ça? Mais si vous vivez la solitude, c'est très bien. Si vous la vivez bien, eh bien c'est bien. Mais ne vous autorisez pas à mépriser quelqu'un qui la vit mal. Parce que je vais vous dire, il fera comme cette femme, vous savez qu'elle est à l'hôpital, et qui disait, tu ne devrais pas te trouver à l'hôpital si tu avais la foi. Je passe parce que je sais que vous comprenez très bien. Apprendre ces choses, apprendre la communion avec les frères, développez-la, même si vous avez été déçu par des frères. Vous n'avez jamais été déçu par des frères? C'est fini. Alors là, c'est fini. Tu vois, Seigneur, ma sincérité, plus jamais je me confierai à quelqu'un. Non. Ou amen. Ça dépend comment on est, dans quel état d'esprit on est. Il n'y en a pas qui l'ont dit ça? Je me confierai qu'en toi. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu seul. Et bien sûr qu'on a des textes à l'appui. Mais moi, je vais vous dire, Dieu nous a créés pour qu'on dépende les uns des autres. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire, moi, je suis fort tout seul. Yes. Personne. Dieu nous a créés de tels. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus forts que les autres. Mais d'une façon ou d'une autre, on a tous besoin les uns des autres. Le résultat, une plus grande communion avec Dieu. Vous vous rappelez le résultat de l'épreuve de Job, hein? Il connaissait mieux Dieu. Merci pour les tracteurs, mais Seigneur, surtout merci pour la révélation de ta personne dans ma vie. Maintenant, mon œil te voit. Maintenant, il avait appris, malgré son intégrité, malgré sa droiture, il avait appris à vivre dans le présent. Quand j'ai traversé l'épreuve, quand l'épreuve s'est terminée, le Seigneur m'a donné quelques versets qui sont pour moi des pépites d'or. Et j'ai appris, par exemple, un verset qui m'a bouleversé, qui a changé mon ministère. C'est un verset dans 1 Corinthiens 30. Dans 1 Corinthiens, il y a des problèmes. Vous savez que les épîtres sont souvent des lettres que Dieu adresse aux chrétiens pour régler les problèmes qu'il y a dans les églises. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 30, mais je le sais, je regarde, je vérifie si vous écoutez toujours, au bout du troisième jour. Je le sais très bien. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, l'apôtre Paul règle des problèmes. Il y avait des problèmes de comparaison des ministères. Les uns préféraient l'apôtre Paul, les autres préféraient Pierre, et les autres très 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 spirituels préféraient bien sûr Jésus. Et Dieu répond à ses frères qui aimaient le Seigneur, mais qui s'étaient fait piéger par la différence des ministères. Heureusement qu'on est tous différents. Mais ce qui caractérise la grandeur de Dieu, c'est que quand il règle un problème, en plus il rajoute des trucs géniaux. Alors il explique, regardez bien, parce que moi je peux vous dire que ce verset, il m'a appris à vivre le présent. Regardez, 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Il aurait pu dire juste ça, ça suffisait. Et regardez tout ce qu'il ajoute. Ça, c'est la délicatesse de Dieu. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Moi, ce verset, il m'a béni. Depuis ce jour, je vis dans le présent. Merci pour le passé, merci pour l'avenir, merci pour le 12 juin 2011. Ce que Dieu veut que nous apprenions, c'est à vivre le présent. Il y a des gens qui sont détruits, qui détruisent leur vie parce qu'ils n'ont pas appris à vivre dans le présent. Dieu veut que vous appréciez le moment que vous êtes en train de vivre. Le passé, il était bien, c'est bien. Le passé, il n'était pas bien, c'est bien quand même. C'est vrai. Vous savez, moi j'ai fait des visites en hôpital psychiatrique. Il y a des gens qui sont en psychiatrie parce qu'ils ont été détruits dans le passé. Il y a des gens qui sont en psychiatrie parce qu'ils ont eu un passé tellement merveilleux, qu'ils sont tellement nostalgiques de leur passé qu'ils en sont détruits autant. Je vous assure que c'est vrai. Ils sont détruits par les bénédictions du passé parce qu'ils en sont nostalgiques. Je l'exprime peut-être vite fait, mais je vous assure, c'est une vérité. Tout est à vous. Tout est à vous. Le présent, l'avenir, les choses éternelles, les promesses de Dieu, tout est à vous. Amen. C'est pas bien ? Tout est à vous, le présent est à vous. Tout ce que Dieu a fait, il l'a pas fait pour nous, pour lui. Il l'a fait pour nous. Vous entendez ? Si vous méditez ce verset, je vous assure que vous en vivrez des bénédictions. De vivre bien le moment présent. Merci pour les choses que tu as préparées dans le très très court terme. Merci pour le long terme. Merci pour le très 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 long. Parce qu'il va y avoir du très long. Vous le savez ? Après le millénium, ça va être très long. Merci pour le très long, Seigneur. Tout est à vous. L'Église, elle est à vous. Les gens sont à vous. Tout est à vous. Vous ne trouvez pas que c'est bien ? Fais-moi ce verset, il m'a béni. C'est pour ça que j'insiste un peu. Voilà, vous l'avez compris. Tout est à vous. Merci Seigneur. Bon, apprendre à comprendre que Dieu change le temps, les circonstances, apprendre que Dieu est le Dieu du présent. Ça, c'est important. Méditez-le, s'il vous plaît. Je ne peux pas tout vous expliquer maintenant. Daniel au chapitre 3. Les amis de Daniel au chapitre 3 vont traverser une épreuve. Nebuchadnezzar a voulu faire une statue d'or afin qu'il le représentait, bien entendu, et il voulait que tout le monde l'adore. Tout le monde, là aussi, un mégalomane de plus. Là, les amis de Daniel, vous connaissez l'affaire, je ne vais pas la lire. Les amis de Daniel et tous les autres sont invités à adorer une idole. Ouf, nous on n'est pas invités à adorer des idoles aujourd'hui. Il n'y a pas d'idole aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des idoles aujourd'hui ? Elles n'ont peut-être pas la même forme que la statue de Nebuchadnezzar, mais je peux vous dire qu'il y a le monde est rempli d'idoles. Et nous nous trouvons dans une situation de tentation, le compromis. Je me prosterne. Qu'est-ce que feraient les jeunes aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que même certains serviteurs de Dieu diraient aujourd'hui à des jeunes doués, remplis d'intelligence ? Ils sont jeunes, ils vont avoir des postes à haute responsabilité. On ne va pas gâcher ce truc. Allez, écoutez, vous faites un compromis. Écoutez, c'est Dieu regarde au cœur. Vous le savez. Écoutez, on ne va pas faire d'histoire. Écoutez, moi, je vais vous donner un conseil. Dans votre cœur, vous vous prosternez devant Dieu. Et pour ne pas faire d'histoire, vous vous prosternez devant la statue, c'est bon. C'est pas comme ça qu'on ferait aujourd'hui. Sérieusement, c'est pas comme ça que ça se... Dites-moi, vous pensez pas que dans bien des cas ça se passerait comme ça? Mais combien de jeunes le font? Ils se prosternent devant Dieu à l'église et à l'extérieur, ils sont prosternés devant le Dieu Google. Vous connaissez le Dieu Google? In English, Google. Vous riez ? Vous riez parce que vous avez connu un nouveau dieu Google. Mais moi, je vous dis que c'est une idole. Vous entendez ? C'est une idole devant laquelle des millions de chrétiens passent des heures à se prosterner. Et eux, ils sont tombés dans le compromis. Alors, bien sûr que je paraphrase un peu tout ça, mais il y a des idoles. Et le roi de ce monde est à la puissance, avec un petit P majuscule, avec un petit P, j'en conviens, mais le roi de ce monde a la puissance de créer de nouvelles idoles pour que les amis de Dieu, les amis de Daniel, se fassent piéger et en arrivent à ce compromis. Bon, je suis vrai, moi je suis pas un légaliste, moi je suis prosterné devant Dieu, moi là ce matin je suis prosterné devant Dieu, et demain soir, devant quelle idole serez-vous? Parce que je peux vous dire qu'il y en a des idoles. Et à cause de ça, l'œuvre de Dieu est freinée. Beaucoup de chrétiens sont capables de passer 3 à 4 heures de chatter sur Facebook. J'ai jamais été. Je reçois tout le temps, voulez-vous devenir mon ami Gérard? Vous savez, sur les petits messages, Gérard, voulez-vous devenir mon ami sur Facebook? J'ai le temps de faire ça, oui. Il y a des chrétiens qui m'ont dit, je passe 3 heures devant Internet. Et votre culte personnel, à l'église, je lis ma Bible. Voilà. C'est quand même important d'y réfléchir. Comment Dieu pourra-t-il amener quelqu'un à une véritable communion avec lui si vous êtes en communion avec le Dieu américain? C'est pas compliqué, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Et vous savez que ce qui caractérisera la fin des temps, c'est que le diable arrivera à mettre la marque de la bête sur la main ou le front des gens. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la fameuse marque de la bête. La marque de la bête. La Bible dit que certains portent sur leur corps la marque de la flétrissure. Moi je crois que une des marques de la bête, c'est le mensonge. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Et ce qui se passe dans certaines épreuves, c'est que nous tombons dans les pièges du diable qui est un menteur. On ne fait pas de compromis. Ou on se prosterne devant le Christ, ou on se prosterne devant les idoles. Et c'est pour ça que je disais à bon escient tout à l'heure, heureux ceux qui peuvent chanter que Jésus est mon Seigneur. Le Seigneur, il gouverne ma vie. C'est pas moi qui gouverne, c'est lui qui gouverne. Moi, je vous dis franchement, je le dis, c'est pas bien, c'est bien, je sais pas. Moi, c'est mon week-end, demain, je fête mes 30 ans de mariage. Et je me suis posé la question, est-ce que ça, pour ce week-end-là, quand même, tu pourrais aller te balader avec ta femme, te promener, etc., etc. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous savez ce qu'il fallait que je fasse ce week-end-là. Vous comprenez? Est-ce que j'aurais pu passer un week-end avec ma femme? Est-ce que Dieu m'aurait réprimandé par rapport à ça? Mais qu'est-ce que c'est qui est le plus important? C'est que ça ne vaut pas la peine de faire des sacrifices parfois. Quoique, c'est un plaisir d'obéir à Dieu, je vous le dis. Mais pour tout ça, pour vous expliquer que la vie, elle est faite de choix continuels. Et je m'adresse à ceux qui rentreront peut-être un jour dans le ministère. Sachez faire des choix. Sachez aussi faire des choix pour votre épouse. La consécration, c'est quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. La tentation du compromis. Vous voyez, ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé. Quel a été le résultat? Vous connaissez le résultat? Quand le roi leur dit, écoutez, il s'irrite, il s'énerve, vous rendez compte, 3, pourtant c'était des gens qui l'avaient déjà élevé. Mais vous voyez, quand on est mégalomane, vous voyez, on n'est pas capable de discerner les gens intelligents. Donc ce roi, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, voilà, écoutez, bon, je vous donne une deuxième chance, on va recommencer. Hein? C'était la répétition générale, maintenant ça va être sérieux. Voilà, vous allez maintenant vous prosterner au son du chalumeau, etc., de la cornemuse. Vous allez vous prosterner. Et qu'est-ce qu'ils font les trois amis de Daniel? On le lit? Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi, pour vous dire un peu comme ils en avaient peur. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Rien que là, ils auraient pu se faire décapiter. Voici, lisez bien ce que c'est. La réaction dans l'épreuve, parce que là quand même c'est devant toute une foule. Ils savaient qu'ils allaient mourir, qu'ils risquaient de mourir. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Nous on sait la fin de l'histoire, mais là, à ce moment-là, on ne savait pas trop ce qui allait arriver. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont entrevu la possibilité d'aller jusqu'au sacrifice. Si Dieu nous délivre, c'est très bien. S'il ne le fait pas, c'est pareil. Oui ou non? Dieu peut me guérir. si je suis malade, et je crois à la guérison divine, que Jésus est mort sur la croix pour guérir nos maladies, mais s'il ne me guérit pas, eh bien c'est pareil, j'accepterai. C'est ça l'enseignement de ce chapitre. Dieu peut m'accorder telle grâce, telle faveur. C'est bien, sinon, c'est pareil. Vous en êtes là? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Dieu peut m'exaucer, oui. Dieu peut intervenir. Et je le crois vraiment, il est tout puissant. Mais s'il ne le fait pas, eh bien sache que ça ne changera rien du tout. Voilà la maturité, voilà la sagesse et l'intelligence spirituelle qui s'expriment devant toute une foule. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui me disent « Moi, j'ai peur de rendre témoignage dans ma boîte. J'ai peur de rendre témoignage. » Il y a des gens, ils travaillent dans une, des chrétiens, ils travaillent dans une société, ils ont 10 collègues dans leur bureau, ils n'ont jamais parlé du Seigneur. Mais je comprends que vous puissiez avoir certaines craintes, mais Dieu peut vous délivrer de ces choses et vous donner de témoigner. Et qu'une fois que vous aurez pris l'habitude, vous allez voir, c'est une belle expérience. Demandez à Dieu qu'il vous délivre de la peur. Les amis de Daniel, ils ont commencé à prendre des résolutions. Hier, je vous parlais de David, qui, lorsqu'il voyait un troupeau, j'ai même rêvé cette nuit qu'un lion m'attaquait. Je ne vous raconte pas le rêve, parce que là, ça, vraiment, on va sortir du sérieux. Mais franchement, quand David a pris la résolution, parce que, je ne sais pas, peut-être il était en train de composer le psaume 23, j'en sais rien, ou un autre psaume, quand il a vu le premier lion s'approcher. Il a pris la décision de risquer sa vie pour un agneau. C'était une épreuve, ça. Mais en vérité, Dieu, du haut du ciel, a dit, « Ah, celui-là, il est responsable. » Son père lui a confié le troupeau. Parce que notre vie, je vais vous dire, hein, sans vouloir mépriser, notre vie, elle vaut rien. Entre guillemets, pas aux yeux de Dieu, mais par rapport au service, si on n'est pas capable d'assumer les responsabilités qu'on nous confie. Je ne sais pas pour le moment les responsabilités que vous avez, mais assumez-les. Parce qu'en assumant les responsabilités, Dieu prépare les prochaines œuvres. Vous voyez, quand on a chanté « De mon Seigneur, j'aurai la grâce », vous avez bien fait de choisir ce cantique, de marcher encore dans ces vastes desseins. Les desseins que Dieu prépare, il les prépare à condition que nous nous préparions, nous, dans les petites épreuves que Dieu nous présente. Et Daniel et ses trois amis n'ont pas eu peur devant cette foule de tous les magistrats du pays, les riches et les notables et le roi en personne, de dire, écoute, on ne se prosternera pas. Ça peut vous arriver, Dieu peut vous éprouver. Dieu peut vous éprouver. Demain, dans l'entreprise, acceptez-le. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. C'est écrit ou c'est pas écrit? Ils n'acceptent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur, mais ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur. On revient toujours, toujours au point de départ. Il n'y a pas eu un bon fondement. Le résultat, le premier résultat, la conséquence de cette prise de position, ça a été la fournaise. Et dans la fournaise, le roi se met à écarquiller les yeux, mais on en a jeté 3 et ils sont 4. Oh, c'est pénible. Qu'est-ce qui se passe? 27-23, les 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés, ils les ont liés dans la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, certainement, oui. Au roi, oui, de toute façon, il n'aurait pas pu dire autrement. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu. » Et qui n'ont pas de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Vous pouvez dire amen. Dans la fournaise, le Seigneur était là. Ça ne vous encourage pas? Dans l'épreuve, il sera là. Alléluia. Il sera là. C'est vrai que quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, certains ont été délivrés. Certains ont été délivrés de l'épée. D'autres sont passés au fil de l'épée, tous par la foi. Certains sont sortis de prison par la foi. Ça j'aime. Certains ont été emprisonnés par la foi. Quand vous lisez Hébreux 11, vous vous rendez compte que ce que la foi peut accomplir, ce que la foi peut endurer, c'est ça l'équilibre. Vous me suivez? Et eux, ils étaient dans cet état de grâce. Et vous avez vu, quand ils ressortent, ils ne sentaient même pas le feu. Mais moi, j'apprécie la chirurgie du Seigneur. Il n'y avait que les liens qui avaient fumé. Ils ressortent, vous avez vu? Je vois 4 hommes sans liens. Ça, c'est de la chirurgie précise. Mais moi, je trouve ça génial. Vous ne trouvez pas ça formidable? Saint lien, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'épreuve, Dieu l'utilise pour brûler nos liens. Pourquoi j'ai cette épreuve? Et parce que peut-être encore il y a des liens. Et Dieu n'a cramé que les liens. Moi, je trouve ça formidable. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Dieu n'a brûlé que les liens pour qu'ils soient libres, même dans l'épreuve. Et vous vous rendez compte l'expérience qu'ils ont dû faire, qu'ils ont faite? Voilà. Et il faut que l'épreuve détruise les liens de la chair. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses et il a souffert. C'est pour ça, ne calculez pas à court terme. À Moïse, j'ai parlé des trois amis de Daniel à qui on aurait conseillé, écoute, vous vous prosternez, c'est bien pour cinq minutes, on ne va pas faire tout un plat et après on verra. Moïse, il a tout abandonné. Vous savez que Moïse aurait dû devenir pharaon. Et regardez les verbes qui sont utilisés pour montrer la décision. Parce que la foi, voyez, est générée par un esprit décisif. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 11. C'est important parce que l'épreuve, en fin de compte, il doit y avoir des résultats. Hébreux chapitre 11, quand il nous est parlé de Moïse, regardez du verset 24 au verset 27. Il y a des verbes. Je vous encourage lors de votre méditation à méditer les verbes qui sont utilisés car souvent ce sont des verbes actifs qui expliquent qu'on a pris une décision. Hébreux 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa, voyez, d'être appelé fils de la fille de Pharaon, donc Pharaon. Il aurait dû être Pharaon 2 ou 3, 3 je pense, voyez. Il a refusé d'être le roi d'Égypte, la puissance la plus grande à l'époque du monde. Il y en a qui lui auraient dit, attends, tu dis rien. Tu te rends compte, tu vas être pharaon. Quand tu seras pharaon, mais tu vas changer l'économie du monde. Tu vas changer la religion de l'Égypte. Mais aujourd'hui, mais je vous assure, on dira déjà, mais tu te tais, tu la boucles, tu dis rien. Attends. Vous voyez, ça c'est pas bon. Il refusa, verset 25, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda. Vous voyez, c'était un homme de vision. Un homme de vision, un homme de décision. L'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de la vision et de la décision. Une vision ne s'accomplit, la vision de Dieu ne peut s'accomplir que quand des hommes ont un esprit de décision. Moïse, s'il avait écouté les conseils des chrétiens d'aujourd'hui, qu'il lui aurait dit, attends, quand tu seras pharaon, je t'assure, tu te rends compte, on aura un chrétien sur le trône d'Égypte, c'est ça qu'il te faut. Il a passé 40 ans à garder un troupeau qui n'était même pas à lui. 40 ans. Vous voyez qu'il ne faut pas calculer à court terme. Moïse, s'il avait accepté, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Et c'est devenu un des hommes, on ne va pas parler de Jésus bien sûr, Jésus ce n'est pas un homme, Jésus c'est Dieu. Mais moi je crois que l'homme le plus grand de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Vous ne croyez pas? Parce qu'il a su se décider. Les jeunes, il faut que vous vous décidiez. C'est pas là maintenant, mais le mardi matin, au boulot, est-ce que vous allez savoir refuser certaines choses, choisir autre chose, etc. Vous montrer ferme. C'est comme ça, quand David a choisi de risquer sa vie, mais je le présente avec un peu d'humour, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, et c'est pas interdit, je le répète. Mais quand même, imaginez-vous, à 15 ans, pour un agneau, aller risquer sa vie. Dieu a dit ça me plaît. Il est dit qu'il a cherché, il a cherché. C'est un verbe qui indique que Dieu a du mal à trouver quelqu'un. Il a cherché et il a trouvé un homme selon son cœur. Et que vous avez vu ce que David a fait, bien sûr qu'il y a eu des impairs, mais il était un homme selon le cœur de Dieu et il savait corriger ses erreurs avec une véritable repentance. Ne calculez pas à court terme. Résultat, Daniel 3, verset 30. Résultat, Daniel chapitre 3, verset 30. Après cela, vous voyez le roi, d'un côté il veut tuer tout le monde, mais de l'autre, bon. Daniel chapitre 3, verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et si ses amis lui avaient dit, tu sais, si vous dites rien... Si vous dites rien, vous savez, déjà, vous êtes en vue devant le roi. Dieu vous fera prospérer. Est-ce que vous croyez qu'ils auraient accepté? Bien sûr que non. Mais voyez, ils ont été intègres. L'épreuve du compromis à laquelle ils n'ont pas cédé a eu pour résultat le fait qu'ils ont prospéré. Bon, ça ne veut pas dire que la prospérité est automatique. Mais on ne va pas commencer à dire « Ah mais d'accord, j'ai compris. Je veux prospérer. Non, maintenant je sais ce qu'il me faut faire. » La prospérité n'est pas automatique. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu peut-il vous faire prospérer? Si la prospérité doit vous mener en enfer, est-ce que Dieu va vous faire prospérer? Il y a des gens, dès qu'ils sont enrichis, ils abandonnent Dieu. Il y a des gens, dès que leur pouvoir d'achat augmente un petit peu, ça y est, ils n'ont plus besoin de Dieu. Il vaudrait mieux pas que Dieu les fasse prospérer. Croyez-moi. L'épreuve ne nous rapproche pas forcément de Dieu. On en a parlé plusieurs fois, l'épreuve peut nous éloigner de Dieu. Je continue ou j'arrête? Daniel chapitre 4, là c'est le roi qui passe par l'épreuve. Le roi, il a une maladie mentale. Une maladie où il se prend pour un animal sauvage. Vous connaissez l'affaire, hein? Ça s'appelle une épreuve, écoutez bien, je vais terminer avec ça. C'est une épreuve sanction. Dieu, bon, c'est vrai que ce roi, il avait été l'instrument en même temps de Dieu pour raser Jérusalem, pour piller le temple, pour voler les instruments sacrés du temple, enfin, à cause là également de la désobéissance d'Israël, et ce roi, il s'est cru tout permis. Il s'est cru tout permis, et Dieu va lui envoyer le prophète Daniel pour lui donner un conseil. Et je voudrais que vous reteniez cela, c'est que parfois, Dieu, par les uns, les autres, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des servantes, etc., nous avertit. Combien de fois, moi, j'avertis des jeunes filles, mademoiselle, ne vous mariez pas avec ce garçon. Quand je vois comment il parle de sa mère, il parlera comme ça de vous. Moi, je vous dis, non, monsieur Gaud, je le changerai. Et mariez-vous. Et regardez ce qui s'est passé. On va lire que le verset 27. Lisez ces chapitres parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il ne lui prophétise pas la prospérité là. Voyez au verset 25. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Enfin, je veux dire, jusqu'à ce que sept ans passent sur toi. Mais regardez au verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. La volonté de Dieu pour ce roi, eh bien, c'était que son bonheur se prolonge et qu'il arrête avec son péché, avec ses iniquités. Et nous voyons dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, à maintes reprises, Dieu dire, voilà les conseils que je t'adresse, éloigne de toi après un premier avertissement. Enfin, on ne va pas partir dans la discipline, dans l'Église, mais Dieu souvent nous donne des conseils. Qu'est-ce que vous faites des conseils? Il n'a pas écouté le conseil. Bien sûr que Au bout d'un an que ça s'est passé. Au bout d'un an, rien ne s'est passé. Alors il a dû se dire, mais il s'est trompé, Daniel. Et il est retombé dans ses travers. Et la sanction est tombée. Un avertissement, c'est sérieux. Ça peut vous éviter des épreuves. C'est pour ça que la prédication, c'est un conseil aussi. Quand Paul dit, je ne sais plus à quelle église, à Éphèse, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Cet enseignement peut être très théologique, mais il peut être très pratique. Et vous pouvez dire à Jésus, sois mon conseiller. Ésaïe n'a pas prophétisé, on l'appellera admirable conseiller. Voilà le conseil que je te donne, dit Dieu aux chrétiens de la Odyssée, je te conseille de. Parce que sinon, il y a des sanctions. La Sainte-Seine, on n'utilise pas souvent le texte que parce que certains ne se sont pas éprouvés eux-mêmes. Vous connaissez le texte? Si vous vous jugiez vous-même, vous ne seriez pas jugé. Quand on prend la Sainte-Seine, on se juge, pas dans le sens de se condamner, dans le sens de s'évaluer. Dire, c'est vrai, j'ai un conflit avec monsieur Untel. Mais je me suis disputé avec lui, je ne lui ai pas demandé pardon. Bon, je prends la Sainte-Seine, tu sais Seigneur, mais après j'irai, ou j'enverrai un mail, ou je lui téléphonerai, ou j'irai le voir, c'est réglé, et c'est réglé. Si vous vous jugiez vous-même, vous ne seriez pas jugé. C'est pour ça qu'il y a parmi vous un grand nombre de malades. Alors c'est pas parce qu'on est malade qu'on est dans le péché. C'est pas parce qu'on est en pleine santé qu'on est dans la sainteté. Mais vous comprenez, je veux dire. Soyons vrais. Les païens, moi j'en connais qui sont en très 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 bonne santé. Et si Dieu les traitait selon leurs péchés, je peux vous dire qu'ils auraient au moins une douzaine de cancers en même temps. C'est vrai ce que je dis. Si c'était proportionnel, vous comprenez ce que je veux dire? C'est sérieux ce que je dis. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il est sous la condamnation de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il est sous la bénédiction de Dieu. Etc., etc. Mais écoutez les avertissements. Soyez sérieux. Beaucoup de gens disent « Oh, Dieu fait grâce. Dieu, pour eux, la grâce, c'est une couverture. Je fais ce que je veux. Dieu pardonne tout. » La grâce, elle nous enseigne, dit l'apôtre, à vivre selon la piété et la justice, le temps qu'on a à vivre sur la terre. Donc, il est tombé, Dieu a frappé, des épreuves, sanctions, ça existe, et il est tombé dans la démence. Pendant 7 ans, jusqu'au jour où il est dit, au verset 34, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. » Vous voyez, bon, il a mis 7 ans. Des épreuves qui durent, le temps qu'il faut pour qu'on réapprenne à lever les yeux vers le ciel. J'espère que c'est votre habitude, ça, que vous soyez dans la prospérité, dans la bénédiction ou pas, de lever les yeux vers le ciel. Ne faites pas comme le mauvais riche qui a levé les yeux vers le ciel dans le séjour des morts, c'était trop tard. Vous qui n'êtes pas encore converti, ne jouez pas avec votre éternité. Ne jouez pas en disant « moi je me convertirai plus tard, je suis encore jeune ». Vous oubliez un paramètre, c'est que chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu et que vous ne vous convertissez pas, votre cœur s'endurcit. Et le raisonnement « j'attends, quand je serai plus vieux, je me convertirai », il ne tient pas debout parce que votre cœur sera endurci et vous ne croirez pas au pardon de Dieu. Je sais de quoi je parle. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux conseils. Si ce matin Dieu m'utilise pour vous dire « convertissez-vous », moi, je dis plus aux gens, je vais prier pour que vous vous convertissiez. Je dis aux gens, convertissez-vous. Voilà. C'est pas écrit, c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit, je vais prier pour que vous vous convertissiez? Non. C'était, convertissez-vous. Vous qui êtes perdu, vous qui allez en enfer, convertissez-vous. Donnez-lui votre cœur. Maintenant, pendant quelques minutes, on va fermer les yeux. Dites, Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je termine vite. Au chapitre 6, il y a la jalousie. À cause de la supériorité intellectuelle, spirituelle, etc. de Daniel, les autres sont jaloux. On lui reproche son intégrité. Est-ce que ça peut arriver aujourd'hui, ça encore? Ouais, c'est bon. Et il a tenu bon. Et il est allé dans la fosse aux lions. Ah bon? À cause de son intégrité. Mais David, il a été en prison à cause de son intégrité. Jérémie, enfin si on prend la liste de tous ceux qui ont été éprouvés à cause de leur intégrité. C'est, des fois, on traverse l'épreuve, non pas parce qu'on a le péché, mais c'est exactement l'inverse, parce qu'on est intègre. Ça encore, c'est un autre sujet. Vous savez qu'il a été en prison, enfermé dans la fosse aux lions. Imaginez-vous qu'on vous jette demain dans une fosse aux lions qui n'ont pas mangé depuis 8 jours. D'ailleurs, ils n'avaient pas mangé depuis longtemps, parce que quand les autres se sont fait jeter, ils n'étaient pas arrivés au fond de la fosse, je pense qu'il devait y avoir que 2 ou 3 mètres, qu'ils avaient déjà été entamés. C'est pour vous dire un peu. Le résultat d'un homme qui est resté intègre, le résultat. On finira ce soir parce que ça va nous amener à un autre sujet. Regardez bien. Alors, c'est Daniel, la fosse aux lions. Le verset 23 nous intéresse. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel, c'est le résultat, fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui, je l'ai souligné ça, aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Après l'épreuve, aucune blessure. Mais ce n'est pas automatique, hein. Parce qu'il y en a qui, dans l'épreuve, moi je trouve qu'ils en ont eu des blessures. Je passe à un certain Jésus de Nazareth qui a été blessé pour nos iniquités. Par ces blessures, nous sommes guéris. L'épreuve peut se terminer sans blessure. Merci Seigneur. Ça arrive. Moi, dernièrement, je traverse une épreuve sans blessure. C'est bien. C'est pas automatique. Il y a des épreuves, vous serez blessés. Il y a quand même quelqu'un qui est spécialisé dans la chirurgie, il guérit les cœurs blessés. Béni soit Dieu si telle épreuve me fera sortir sans blessure. Ça arrivera. Réjouissez-vous. Il y a des épreuves qui vous blesseront. Acceptez-le. Vous serez blessé, un conflit va vous blesser. Vous allez encore apprendre certaines choses, comment le médecin peut vous passer un baume sur les blessures. On l'a entendu dans les bras du Seigneur. Combien de gens, par exemple, connaissent le psaume 23 par cœur? Moi, j'ai souvent posé une question aux chrétiens qui me disent qu'ils connaissent le psaume 23 par cœur. Donc, vous avez connu l'adversité. Si Dieu est votre berger, un des versets du psaume 23, c'est que tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc, quand Dieu est notre berger, il y a de l'adversité également. Et si Dieu est vraiment votre berger, vous attendrez patiemment, car n'oubliez pas qu'un des buts de l'épreuve, c'est d'apprendre la patience. Quand il nous est parlé de Job, il nous est dit, vous avez vu la patience de Job. Et l'adversité fait partie de la vie. Si Dieu est votre berger, vous direz, Seigneur, tu vas dresser une table. Une table, c'est une bénédiction. Et quelqu'un qui a confiance en Dieu, il sait qu'il le fera. Ma petite expérience de 28 ans de ministère m'a démontré que chaque fois que vous prenez la décision de dire, c'est lui le berger, c'est pas moi qui dirige, c'est pas Jésus le petit mouton, c'est moi le berger. C'est Jésus le berger. Parce qu'il y en a, ils devraient changer le texte. Ils devraient dire, je suis le berger, le Seigneur est mon mouton. Je ris pas moi. Quand je vois comment certains chrétiens agissent, c'est ça, il devrait y avoir le psaume 23 bis pour les chrétiens charnels. Je vous assure que c'est vrai. Il y a des chrétiens, c'est eux qui sont leurs propres bergers. Et ils demandent à Jésus de les suivre là où ils veulent aller. Ne vous attendez pas à ce que l'épreuve tourne avec une table dans l'adversité. Je crois que nous sommes sous le regard de Dieu. Nous sommes conscients que nous sommes dans des temps difficiles, mais pas des temps impossibles, et que nous pouvons être dans la victoire. Et que chaque épreuve doit avoir un résultat positif. Pas positif dans le sens où moi je dicte à Dieu le résultat qu'il devrait y avoir, mais je sais que son résultat sera le bon. Parce que si Dieu veut que vous soyez pasteur, comme je vous le dis, parce que quand j'ai failli arrêter le ministère, je pense que j'allais faire une erreur. Est-ce que vous pensez que ça aurait été bien qu'il y a 15 ans, j'arrête le ministère? Mais moi, j'étais sûr que c'était bien. J'étais sûr dans ma tête, sûr que c'était bien. Et je vous assure, ça faisait un an que j'ai m'y préparé. Vous ne me connaissez pas, mais quand je commence à me décider pour quelque chose, je sais ce que je vais faire. Et ça faisait un an que je me décidais. J'en avais marre. Parce que quand il est dit, prenez mon joug sur vous, mon joug est doux, mais l'inverse est vrai. Vous avez compris? Et je me suis levé un matin. J'étais à genoux dans mon bureau, je me suis levé, et j'ai dit, t'arrêtes le ministère. Et je vous assure, j'étais programmé. Et quand je me suis levé, la voix du Seigneur, Dieu ne m'a pas parlé souvent d'une manière audible, mais là ce matin, je pense qu'il avait besoin de me parler. Si tu arrêtes le ministère, tu connaîtras l'expérience de Jonas. Mais j'étais décidé. Et je suis parti à la maison, il fallait que j'en parle à Isabelle. On était à 50 mètres de l'église. Ma femme était en train de préparer le repas. Je me rappellerai toute ma vie. Chérie, il faut que je te parle. Et si on arrêtait le ministère? Ma femme, avant qu'on parte en Polynésie, Elle gagnait vraiment un très bon salaire. Et je me suis dit, tu pourrais retourner travailler avec mon père, etc., etc. Tu vois, on ferait un break pendant un moment, un truc bien, quoi. Et je me rappelle, elle était en train de cuisiner, là, avec son petit couteau. Elle se retourne. C'est vrai, tout ça. Je riais pas trop, là, ce jour-là. Je savais que je risquais rien avec l'arme blanche qu'elle détenait. Elle me dit, Gérard... Non, je crois qu'elle m'a dit pasteur. Quand ma femme m'appelle pasteur... Non, tu m'as dit Gérard ? Gérard, je m'appelle. Parce que des fois, elle me dit, quand elle m'appelle pasteur, je sais qu'elle va me dire quelque chose que j'ai besoin d'entendre. Et bénissez le Seigneur si vous avez une femme qui est capable de vous donner des conseils. Ou bénissez votre mari si vous avez un mari qui vous donne des conseils. Et ma femme, elle me dit, écoute Gérard, si tu arrêtes de ministère, tu connaîtras l'expérience de Jonas. Alors, je dis, c'est bon, on me l'a déjà dit. Je m'appelle. Et je suis parti. Vous savez, comme les chiens qui ont peur, là. Je suis reparti à mon bureau et je suis pas claustrophobe, mais j'avais pas envie de me retrouver dans une situation à l'étroit. Et vous voyez, j'ai écouté le conseil. Je me demande franchement ce qui me serait arrivé. L'épreuve dont Dieu m'avait parlé. Je ne pense pas que j'aurais fini dans le ventre d'un grand poisson dans le Pacifique. Mais je sais que j'aurais eu une épreuve terrible. Parce que Dieu veut que je sois serviteur de Dieu. Voilà, et c'est bien. Aujourd'hui, c'est bien. Mais il m'a fallu traverser des moments difficiles. On les a traversés ensemble. Avec mon épouse, aujourd'hui, on se réjouit de servir Dieu. C'est plus un fardeau, c'est plus une contrainte, c'est plus une difficulté, c'est un honneur. C'est un honneur de servir Dieu. Tout ça pour vous dire que quand Dieu permet l'adversité, il va y avoir un résultat. Ça sera la gloire, l'honneur et la louange lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et on n'est pas très loin de cette affaire. On ferme les yeux quelques instants. Peut-être vous êtes blessé, vous êtes tombé dans la fosse et quand même Dieu a permis quelques blessures. Acceptez-les. Dieu peut-il poser sa main sur vous maintenant? Peut-être que Dieu l'a fait pendant la prédication. C'est une des choses qui m'a le plus béni, de dire, ah, vous savez, quand vous avez prêché, Jésus m'a touché. Pendant le cantique de la fin, Dieu m'a guéri. Je crois qu'il y avait une disposition de cœur, bien sûr. Oui, Dieu vous a épargné des blessures. Et ne dites pas, moi, je suis sorti sans blessure. Ayez de la compassion pour ceux qui ont des blessures. Si Dieu vous a épargné des blessures, eh bien c'est super. Mais si vous êtes blessé, lui aussi l'a été. Et il l'a été, moi je trouve, beaucoup. Alors j'aimerais qu'on puisse répondre à cette prédication. Mon épouse et moi-même, nous avons une expérience du ministère, de notre vie. Ça fait 31 ans qu'on est chrétien. On a vécu tellement de choses. Et tout ce que je vous dis, on l'a vérifié et revérifié. C'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Je sais pas où vous en êtes, il y a des jeunes, je sais qu'il y a même des inconvertis. Mais qui veut dire, Seigneur, moi la maturité spirituelle, ça va être mon objectif. La croissance spirituelle pour être l'homme que tu veux que je sois, la femme que tu veux que je sois, voilà maintenant, j'ai compris, Seigneur. Alors je sais pas comment ça va se passer, si vous écoutez les conseils, ça se passera sans blessure, souvent sans blessure. Alors est-ce qu'on peut prier ensemble? Simplement dans le cœur, en murmurant. Est-ce que vous voulez prier? Est-ce que vous pouvez répondre à cette prédication et dire Seigneur Jésus? Seigneur Jésus, je ne sais pas quels seront les résultats de chaque épreuve. Je ne sais pas quelles seront les conséquences, mais moi de toute façon, blessure ou pas, je veux grandir. Je veux pouvoir occuper la terre utilement. Il y a trop de chrétiens qui sont inutiles. Je ne veux pas jeter le désarroi sur quelqu'un. Mais je vous assure, des chrétiens inutiles. Peut-être il y en a dans ce lieu. Prenez la décision. Comme Moïse, malgré la vision, il a décidé. Ne calculez pas à court terme, je le répète. Répondons au Seigneur. J'espère, je voudrais que les musiciens puissent monter, qu'on puisse terminer avec deux ou trois chants de prière ou de louange. Mais je voudrais vraiment que l'on parle au Seigneur. Il est là. Il est là. Et je voudrais que vous puissiez dire, Seigneur, peut-être juste merci. On a chanté hier, alors je ne sais pas comment m'exprimer, mais entends mon cœur. C'est bien ça. Entends mon cœur. David a dit, tu entends la voix de mes larmes. Voyez, les larmes, ce sont, quelqu'un a dit, que c'était des paroles liquides. Moi, j'ai trouvé ça super. Et c'est vrai, les paroles liquides. Seigneur, tu entends mon cœur. Tu entends mes larmes. Tu entends mes soupirs. Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Seigneur, fais-moi grandir. Vous avez fui le lion, vous avez fui le ours, et vous voudriez tuer un Goliath, ça ne sera pas possible. Si vous voulez faire de grandes choses, il vous faut être fidèle dans les petites. Et les petites, en principe, c'est à la maison que ça se passe. David était tout seul dans son pâturage. Dieu le sait quand vous êtes tout seul. C'est là que Dieu sait si vous êtes intègre. Quand vous êtes devant votre ordi tout seul, Dieu sait si vous êtes intègre. À l'église, il n'y a pas de problème. Mais c'est là que Dieu vous éprouve, devant le Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous y êtes prosterné, à vous souiller devant le Dieu technique. Seigneur, non seulement tu as payé au calvaire, et en plus, tu as eu la délicatesse de nous donner tout l'enseignement de ta parole. Merci. Merci pour les hommes qui ont traduit ta parole en français. Quelle grâce de pouvoir la lire dans notre langue. Quelle grâce de pouvoir lire ces histoires qui nous montrent ce que tu es, ce que tu fais, comment tu agis, comment tu interfères, comment tu changes les temps et les circonstances. Oui, je le crois, Seigneur, que tu changes les temps, les circonstances, lorsque les hommes s'entourent d'hommes et de femmes de prière et qu'ils se tiennent dans ta présence. Merci pour ces moments. Restons recueillis. Pendant le chant de ce cantique, restez recueillis. Ne chantez peut-être pas ce chant, mais priez dans votre cœur à haute voix, mi-voix, que tout se fasse dans l'ordre et la bienséance. Mais s'il vous plaît, ayons ce moment d'intimité avec Dieu. Entends mon cœur. Vous pouvez vivre vraiment ce cantique. Entends mon cœur. Les mots que j'utilise. Quand on dit merci, merci, on dit merci parce que on va nous servir à table tout à l'heure, on va vous présenter un plat, merci. Mais quand vous dites merci au Seigneur, ça a pas la même, il n'a pas la même taille le merci. Il est grand. Il vous faudrait l'écrire dans le ciel pour avoir la place. Seigneur, merci de m'avoir dit ces choses. Répondons au Seigneur. Prenons encore quelques minutes, ne passons pas. C'est souvent là que la main de Dieu se pose. Parce que moi j'ai prêché, mais maintenant vous répondez. Comment allez-vous répondre à cette prédication ? La bénédiction dépend de vous maintenant. Que Dieu vous bénisse.